Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, vous êtes au Libre Journal des controverses. Je salue mon prédécesseur, même si c'est une rediffusion, parce que je crois qu'il n'était pas très frais. Il n'était pas très frais après la soirée géopolitique profonde. Ou d'ailleurs, notre confrère Richard De Seize, rédacteur en chef de Radio Courtoisie, était présent. J'étais très content de le voir. On a pu faire une très très belle conférence ensemble. La famille Radio Courtoisie était bien entendu réunie, 800 personnes. Merci à lui. Je souhaite bien sûr une bonne matinée, une belle matinée à Nicolas Stocker et Lara Star. Ma chance, c'est que je commence plus tard que donc voilà. Je salue Virginie à la technique. Elle revient, c'est le retour, c'est Rocky 2, le retour. C'est pareil, Virginie 2, le retour. Ni Vlam. Ce soir, je pense qu'elle aura un concert endiablé. Donc merci à toi, chère Virginie, le Steven Spielberg de la réalisation. Et je salue bien entendu Patrice, lui-même aussi était à la soirée, je crois qu'il s'est réveillé pas très tôt, je le vois, il déballe là ses affaires, mais en tout cas il est là, il est présent, il sera à l'écoute de vos questions et je sais qu'elles seront excessivement nombreuses. Je reçois Sophie Lefèze, sociologue des sciences et techniques. On va parler de la place de la morale dans les choix techniques. La morale, cette fameuse morale. Bonjour chère Sophie. D'ailleurs, vous écrivez sur la revue de Géopolitique Profonde des articles brillants. Il faut se dire les choses. La morale, qu'est-ce que c'est la morale aujourd'hui en 2026 ?
Bonjour Mike, c'est une question difficile. Commencer déjà par ce que c'est que la morale aujourd'hui. On va peut-être commencer juste par la définir et puis on verra ensuite quelle est la place de la morale justement aujourd'hui. Alors la morale, ça va être savoir distinguer le bien du mal. Alors si jamais il y a des gens qui se demandent la différence entre la morale et l'éthique, autant qu'on règle la question tout de suite, la différence elle est pas énorme, disons. On va dire que la morale, c'est collectif à une société pour une époque donnée. L'éthique, c'est plus une réflexion individuelle. Donc, sachant les normes du bien, du mal, comment moi, je vais me comporter au quotidien. Donc, il y a plus de recul sur la morale. Mais on va dire, là, pour simplifier, que c'est la même chose dans cette émission. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde.
Mais justement, est-ce qu'on n'est pas dans une époque où on fait primer la morale avant tout?
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on fait primer la morale? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place aujourd'hui, la morale.
Ah bon, il n'y a pas beaucoup de place, d'après vous?
Commencez par vos arguments.
Écoutez, moi, je trouve que juge beaucoup autrui par une forme de morale. Peut-être une forme de morale, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce qu'on va juger les gens sur le côté bien-mal? Moi, je me suis plus là-dedans. Est-ce qu'on sait encore distinguer le bien du mal?
C'est-à-dire que... on est une société qui, justement, ne sait pas ce qu'est le bien, ne sait pas ce qu'est le mal. Parce que, faut dire aussi une chose, comme on est dans une forme d'inversion de valeur, et que les mots, les champs lexicaux n'ont plus les mêmes définitions, ça aussi c'est vrai. Est-ce que, voilà, ça c'est une question très importante. Est-ce qu'on sait ce qui est bien, ce qui est mal au sein d'une société?
Si vous êtes dans l'inversion des valeurs, vous êtes dans la confusion entre le bien et le mal. Donc si vous confondez les deux, à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu quand même. Mais ce qu'on va voir là, c'est que la science s'est bâtie en mettant de côté la morale. Donc en tout cas, moi sur mon champ, donc les sciences et les techniques, la morale est considérée comme venant après, plus tard. C'est plus du registre du politique. En fait, c'est comme ça que se positionnent les gens. Donc après, est-ce que la politique est morale? C'est une autre question.
Justement, est-ce qu'il y a besoin de cette forme de moralité dans la politique?
Alors, je vais vous répondre pour moi. Moi, je pense qu'il est important d'avoir une certaine forme, en tout cas, de moralité. La politique, telle que je la définis, c'est la répartition du pouvoir. Comment vous organisez le pouvoir au sein d'une communauté pour organiser cette société humaine? Si vous l'organisez, mais que vous ne tenez pas compte du bien et du mal, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, donc au final, au chaos.
Oui, mais regardez... Pourquoi je vous ai dit que on est dans une forme de morale? La politique, moi je pense, et d'ailleurs vous parlez de choix techniques, c'est de la technique, de la technicité. Voilà. Peut-être froide, peut-être, comme l'administration. Et malgré ça, on va mettre beaucoup de morale dans ces questions. Par exemple, un politique qui pourra pas répondre d'une telle manière à je sais pas moi à un journaliste ou un politique qui a les pieds poings liés sur une question parce que la société trouvera que ce qu'il fait n'est pas assez moral d'après sa moralité à sa so de la société. Parce que en plus faut dire une chose, chacun a sa propre morale. Il n'y a pas une morale propre, générale, où tout le monde s'y englobe.
Alors là, il faudra revenir sur la question de l'universalité. Mais alors déjà, je reprends sur ce que vous avez dit. Le politicien ne peut pas dire ce qu'il veut. Donc si je vous comprends bien, vous êtes sur le politiquement correct.
Bien sûr.
Donc là, on est sur de la communication. On est sur ce qu'on appelle l'instrumentalisation du bien du mal. Normalement, la morale, c'est une fin en soi. Vous faites le bien pour faire le bien. Si vous faites le bien pour vous enrichir, vous êtes dans la perversion de la morale. Donc là, si je parle bien pour avoir des voix, ben en fait, je suis dans la perversion de la morale. Je ne fais pas le bien pour faire le bien. Je l'instrumentalise à d'autres fins. Et ça pose un problème.
Mais voilà, mais parce que on a défini un peu la morale, ok. Mais comment se fait-il? Moi je le vois, hein. Moi je vois sur les réseaux, moi je le vois auprès des gens. Chacun a sa propre définition. Parce que voilà, aujourd'hui, moi pourquoi aussi je suis assez tatillon sur les définitions? Parce que je remarque lorsque je fais des reportages, lorsque je prends le micro, je vois les uns et les autres, que les gens n'ont pas les mêmes définitions des mots. C'est-à-dire que et puis il y a aussi des mots qui ont changé de définition. Et donc tout ça porte une forme de confusion. Et donc morale, la morale aujourd'hui ou la morale comme qu'on a connue de tout temps, la morale chrétienne peut-être, parce que on est en France sur une forme de morale chrétienne, parce que c'est elle qui a défini ce terme. Eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est très dévoyée, très mise de côté, si je puis dire, et comprise différemment par les uns et les autres.
Oui, donc là, c'est la question du relativisme dans lequel nous sommes. Alors, dans le temps, il y a plusieurs siècles en arrière, on était dans une vision universaliste. Alors, je vais parler de la notion des Grecs anciens, hein, donc le vrai, le juste, le bon, le beau. C'était des valeurs qui étaient universelles. Donc, on pouvait discuter justement parce qu'on savait qu'il existait une vérité, donc vraie, universelle, sur laquelle on peut se raccrocher. Et cette vérité, elle était transcendantale, justement. Elle dépassait les points de vue de chacun, elle dépassait les époques. Enfin, voilà. Donc, quelque chose qui était au-dessus de nous. Et puis, donc, petit à petit, à partir du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, on est tombé dans le relativisme. Donc, il n'y a plus de beauté universelle, il n'y a plus de bonté universelle, vous n'avez plus de vérité universelle, et ainsi de suite. Donc, la dimension transcendantale, vous l'évacuez, il n'y a plus que des immanences. Mais des immanences, ça veut dire justement, bah, si on pousse l'idée jusqu'au bout, c'est beau pour moi, mais c'est pas forcément beau pour les autres. C'est vrai pour moi, mais c'est pas forcément vrai pour les autres. C'est bon pour moi, mais c'est pas forcément bon et vrai juste pour les autres. Et on est là-dedans. Ce qui pose le problème que vous soulevez, c'est que dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait le lien entre les gens? Si c'est chacun sa vérité, comment vous pouvez discuter encore de quelque chose? Si c'est chacun son goût, bah, comment vous pouvez discuter d'une œuvre? Puisque de toute façon, moi, ce que j'en pense, l'autre en pensera autre chose, et c'est très bien ainsi. Donc ça pose de sérieuses difficultés qui ont été relevées par les philosophes. Donc on sait qu'on est là-dedans
Ben
aujourd'hui.
justement, qui impose la morale? Parce qu'il peut y avoir la morale du fort, du faible, il peut y avoir la morale de l'État, et chacun a son intérêt dans une forme de morale, et d'imposer ce type de morale.
Alors, dans le temps, c'est pareil, avant, vous aviez Dieu qui faisait ce lien. C'est lui qui était transcendantal, qui dépassait tout le monde, et donc c'était la référence commune. Donc là, vous avez du lien. Mais à partir du moment où on a éliminé Dieu, bah, ça posait problème. Il a fallu se demander, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Alors, il y a des solutions. Par exemple, Kant qui disait, ce qui est objectif, donc ça va être Dieu qui va être le garant donc de ce lien. Ça va être le fait que s'il y a une majorité de gens qui pensent la même chose, bon, bah, c'est que ça doit être ça, quoi. Voilà. Donc, on a essayé de trouver des palliatifs comme ça, mais pour l'instant, ça reste assez bancal.
Mais le palliatif de 2026, c'est quoi en France, hein? C'est la République, laïque, des Lumières. S'il y a une morale là-dedans, est-ce que la République a une morale?
Alors,
Parce que moi, je sais pas, je la vois pas beaucoup, hein.
la morale, alors je vais revenir donc sur mon domaine sciences et techniques. Je vous disais, on l'a évacué. C'était pas le sujet en fait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est pareil au 16e, 17e siècle. On commence à se dire, bon, si on essaye d'expliquer pourquoi il y a un tremblement de terre, pourquoi il y a une tempête, etc., on va essayer de dire bah, peut-être qu'on a été mauvais, c'est parce qu'on a beaucoup péché, Dieu nous punit. Mais si on commence à discuter de ça, en fait, c'est compliqué parce que moi, je dis Dieu dit ça, mais enfin, sur quoi je m'appuie? Si vous voulez, je le fais parler, quelqu'un d'autre peut dire ah ben non, Dieu, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, comme il n'y a pas moyen de vérifier, on s'en sort plus. C'est des spéculations sans fin, des débats, etc. Donc, c'est trop compliqué. La science va arrêter de répondre à la question pourquoi, parce que pourquoi, voilà. C'est des débats sans fin et c'est stérile. Par contre, la science peut répondre à la question comment. Voilà. Comment un tremblement de terre survient, ça va. Ça, on est capable de le faire, c'est carré, c'est démontré, vous avez une expérience, des preuves, des équations, ça, c'est bon, ça marche. Donc la science s'est bâtie sur la question comment. Elle a dit, moi, la question pourquoi, mais la question pourquoi, c'est aussi la question des fins, justement. Ça, moi, c'est pas mon registre, hein. C'est après, qui vous voulez, mais c'est pas moi. Donc la science elle-même, elle est donc amorale. Et en fait, on a fait pareil pour les techniques. Hein. Moi, je construis quelque chose, hein, donc j'applique.
Vous êtes sûr que la science est amorale ?
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes qui ont travaillé, d'autres sociologues. Elle s'est bâtie là-dessus. La question.
Elle s'est bâtie là-dessus, d'accord.
La moralité, c'est pas moi.
Mais si. Tiens, on a eu dans l'affaire Epstein, monsieur Epstein cherche à se cloner, donc ça veut dire qu'il met en jeu la science. Mm-hmm. Est-ce que là, il y a une moralité ? Est-ce que là, on peut dire qu'il n'y a pas de moralité ?
On n'est pas sur le même terrain. Moi, là, vous demandez.
Mais j'aime bien aller sur d'autres terrains.
Est-ce qu'il est bon que la science soit amorale? C'est une autre question qu'il faut effectivement se poser. Je pense que c'est pour ça qu'on fait cette émission aussi. C'est pour se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir bâti la science moderne sur la moralité? Et je partage votre avis, je pense que c'est un sérieux problème quand même. Parce que
donc il y a de la morale dans la science.
Il devrait. On devrait bâtir une science morale. La science, c'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça, pouf, la science c'est ça. La science, c'est les humains qui la bâtissent. On a construit la science moderne. Avant, elle était bâtie sur d'autres fondations. Donc, moi, j'exclus pas le fait qu'à l'avenir, on rebâtisse une autre science, en mettant de la morale cette fois-ci.
Vous êtes spécialisé dans les questions militaires. Vous en parlez beaucoup. Le militaire doit-il avoir une forme de morale ? En a-t-il déjà ?
Alors, si vous parlez de la question du combattant, alors, je pense que les militaires vous répondront toujours oui. Il y a une éthique. Vous avez des tas de livres sur l'éthique du combattant, l'éthique de l'officier. C'est des questions qui font partie de leur formation. Donc, pour eux, en tout cas, dans la culture française que je connais, je ne pourrais pas parler plus chez les autres, oui, c'est quelque chose qui est fondamental à avoir. C'est une réflexion qu'ils ont. D'ailleurs, il y a un droit de la guerre. Donc, ça nous dit bien ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est mal de faire. Donc, il y a en fait deux volets dans le droit. Deux volets. Il y a le droit de déclarer une guerre. Donc, est-ce qu'une guerre est légitime ou pas? Voilà. Est-ce qu'on peut la déclarer ou pas? Et après, il y a comment vous comporter une fois que vous êtes dedans. Donc ça a été codifié. Désormais, on a un droit des conflits armés qui vous explique ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Par exemple, vous avez le principe d'humanité, le principe de distinction, le principe de proportionnalité. Donc la distinction, c'est distinguer les combattants des non-combattants. Les cibles militaires, voilà, on voit bien ce que ça peut être, une base, une réserve de munitions d'une cible qui n'est pas militaire. Donc théoriquement, les écoles et les hôpitaux ne sont pas censés être des cibles militaires. S'il n'y a pas d'armement derrière, s'il n'y a pas de détournement d'usage, c'est vraiment purement une école, ça ne doit pas être une cible militaire. Donc vous avez donc le principe de distinction, le principe d'humanité et de proportionnalité, c'est-à-dire vous devez doser votre force. Je ne vais pas, par rapport à mes objectifs militaires, ce n'est pas la peine que j'envoie une énorme bombe si une petite est capable de remplir la mission. Et le principe de ne pas faire souffrir plus que nécessaire. Donc ça, c'est codifié aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, bon, parce que j'imagine que la France n'a pas non plus les moyens techniques pour aller bombarder ailleurs, parce qu'elle ne fait pas. Au contraire, d'autres pays, mais ces autres pays, visiblement, eux, ne respectent pas ces points de vue.
Alors, pour être capable justement de distinguer le combattant du non-combattant et de ne pas faire souffrir plus que nécessaire, vous devez doser votre force et bien cibler. Donc ça va vous amener à développer un certain type de matériel pour être capable de cibler exactement et pas plus. Voilà. Alors après, vous parlez de pays qui ne respectent pas ces principes-là. Oui, parce qu'une fois que vous avez posé vos principes, il faut être en capacité de les faire respecter par autrui. Donc, on a mis en place une cour pénale internationale, mais les États sont libres d'être partie prenante ou pas. Si vous décidez de ne pas faire partie de la CPI, elle peut vous dire ce que vous voulez. De toute façon, ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas partie prenante. C'est le cas des États-Unis, par exemple. Donc ça, c'est un premier problème. Et après, vous avez donc des pays qui sont parties prenantes. Donc la CPI dit, bon là, c'est vraiment pas bien ce que tu as fait. Il faudrait qu'on interpelle le bonhomme et qu'on le passe en tribunal. Mais oui, mais elle n'a pas de police. Donc comment vous voulez, c'est à la bonne volonté des États qui sont parties prenantes d'aller chercher l'individu contre lequel il y a un mandat d'arrêt et de le traîner en justice. Et pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. En fait, alors dans les statuts de la CPI, il y aurait moyen de sanctionner un petit peu les pays qui font pas leur travail. Parce que théoriquement, les pays qui sont parties prenantes se sont engagés. Alors je ne sais plus quel est le titre de l'article, le numéro, mais s'il y a un mandat d'arrêt contre un individu, ils sont tenus de faire ce qui est nécessaire. Est-ce qu'ils peuvent faire ? Voilà. Si ça passe sur leur territoire, ils sont censés donc l'arrêter, l'attraper. Mais s'ils le font pas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sanctions.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la morale, quel que domaine que ce soit, le choix technique d'ailleurs, c'est toujours celle du plus fort qui s'impose.
À l'heure actuelle, en dernier recours, oui.
Et toujours, j'imagine.
Est-ce qu'il pourrait en être autrement ? La question, ça pourrait être peut-être quel type de force on pourrait employer pour contraindre les personnes qui sont récalcitrantes.
Et la force qu'on pourrait employer, c'est aussi une force brute, hors morale peut-être aussi.
C'est la question en fait. Si vous reprochez à autrui de faire ce que vous faites vous-même, à un moment donné, vous n'êtes plus crédible.
C'est très compliqué en réalité tout ce débat parce que pour imposer quelque chose, il faut l'imposer d'une manière non angélique, peut-être hors morale, parce qu'on a aussi. Vous avez parlé de Dieu, il y a la morale chrétienne. Pour moi, enfin, la morale chrétienne d'aujourd'hui, entre guillemets, je dis, elle est un peu dévoyée parce que le message du Christ a été quand même dévoyé. Donc, on y impose de la moralité qui, à l'époque du Christ, peut-être n'existait pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est un débat qui est, pour moi, fondamental, mais par contre, qui est excessivement compliqué parce que chacun a son ressenti, chacun a sa définition, chacun voit différemment les choses et d'ailleurs les sociétés nous obligent à passer de morale à moraline. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moraline,
c'est-à-dire que tout est moral, tout est jugé par la question morale, alors que les choix techniques, ce dont vous travaillez, eh bien, peut-être, moi, pour moi, les choix techniques mettent de côté la morale.
Oui, comme je vous disais, en fait, on va développer parce qu'on sait le faire et on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas, parce que de toute façon, si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui vont le faire. Et comme on se pense dans une course à la technicité, on se dit, il vaut mieux être en premier, donc tant pis, je le ferai. On essaye de mettre des garde-fous, je pense à la biogénétique, ingénierie, etc. Donc on va essayer de freiner un petit peu. Pour l'IA aussi, il y a eu des gens qui ont dit « attention, si on continue comme ça, ça va être terrible, il faut faire un moratoire ». Ce à quoi il y en a qui ont dit « oui, mais si on fait le moratoire, de toute façon, il y en a qui ne le respecteront pas et qui vont prendre de l'avance et finalement, on n'aura rien gagné dans l'affaire, donc c'est pas la peine de faire des moratoires ». Donc c'est sûr, si on part comme ça. Mais en règle générale, donc, le débat, il arrive après, finalement. On va développer quelque chose où on est quasiment sur le point de le faire, et après, on se dit, oh là là, peut-être qu'il y a un petit problème. Donc, c'est là où la politique essaye de faire quelque chose, mais ça reste quand même timide. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément beaucoup de conscience, justement, de la part de ceux qui fabriquent de cette question morale, puisque, comme je vous l'ai dit, on a décidé que cette question-là ne relevait pas du domaine des sciences et des techniques proprement dit. Ça arrivait plutôt après. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément sur la morale, mais sur l'acceptabilité sociale des objets qu'on va créer. Donc, on va créer quelque chose, et ensuite, si les gens n'en veulent pas pour X ou Y raison, juste par exemple, ça pollue, ou ça, c'est des cas aussi avérés qui sont peut-être pas forcément fréquents, mais ça arrive, vous avez une usine qui se construit quelque part, et ça va développer la prostitution localement. Donc les gens, après, ils vont dire « non, je ne veux pas d'usine là-dessus parce que j'ai vu ce qui s'est passé dans la région d'à côté et je ne veux pas de ça chez moi. » Donc, c'est la question de l'acceptabilité sociale, et on va essayer de convaincre les gens que si, finalement, c'est quand même bien, en tout cas, le projet, il est déjà plutôt bien ficelé au moment où on va interroger la population et travailler cette question d'acceptabilité sociale. Elle arrive rarement en amont, parce que cette question, elle va être discutée entre les industriels et les représentants élus. Et on va considérer que les représentants élus, ben, leur rôle, c'est de représenter le reste de la population. Donc, s'ils sont d'accord, la population devrait suivre. Si la population ne suit pas, c'est le problème de la population. La population n'a pas bien compris l'intérêt économique, régional, etc., etc.
Mais comment allier justement le progrès technique avec ça? Est-ce qu'on peut le faire?
C'est une question qui s'est posée au XVIIIe siècle. À l'époque, la plupart des gens pensaient que le progrès des sciences et des techniques allait avec le progrès moral. Il y en a qu'un qui n'était pas d'accord avec tous ces gens-là, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et il a écrit dans un discours qui est moins connu que son autre discours, qui est paru en 1750.
Et qu'est-ce qu'il dit ?
Alors lui, il dit, la question était de savoir si le progrès des sciences et des techniques, enfin, et des arts plutôt, épure les gens, donc les rend en fait plus moraux ou pas. Et lui, il pense que ça pervertit les gens. Alors, il explique...
Perverti.
Ah, pour Jean-Jacques Rousseau, oui.
D'accord.
Alors, il explique que la science, déjà, c'est une occupation inutile. Pourquoi ? Parce que pendant que les gens se posent la question de pourquoi les étoiles font ça dans le ciel, pourquoi il y a un tremblement de terre, etc., on ne fait pas des choses non plus intéressantes, comme par exemple assurer la sécurité de son territoire. Alors, il prend des exemples historiques hein, en Italie, où les gens développaient les arts et les sciences, et pendant ce temps-là, Charles VIII à côté arrive et s'empare d'une partie
mais
de l'Italie.
Oui, mais c'est dingue que Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières... soit contre le progrès, visiblement.
Alors, il n'est pas tout à fait contre le progrès. C'est pas tout à fait ça. Alors, il pense quand même que ne pas savoir, c'est quand même mieux. Voilà.
D'accord. Mais ça, c'est intéressant. Vous touchez un point intéressant. Parce que quand il dit ne pas savoir, parce que lui, il faisait partie à l'époque des classes dominantes. Et évidemment, ne pas savoir, c'est pas pour lui personnellement. C'est pour autrui, c'est-à-dire... les gens de la base, on va dire. Et moins ils savent, et moins ces gens-là peuvent, on va dire, lui prendre sa place, si
c'est
je puis dire.
C'est pas du tout son argumentation. Pour
oui,
lui...
c'est pas... Mais évidemment, vous savez, les gens, quand ils sont à la tête d'université, à Sciences Po, etc., ils n'ont jamais cette argumentation. Mais au final, au fond d'eux-mêmes, ça l'est. Et c'est fondamental.
Je vais vous exposer ces argumentations. Donc pour lui, la géométrie naît de l'avarice, par exemple. C'est parce que vous voulez être sûr que votre voisin ne vous prend pas quelques mètres sur votre terrain que vous allez être très précis. Voilà. L'astronomie naît de la superstition. Et il fait donc toute une liste comme ça pour dire qu'en fait, les gens veulent savoir, mais finalement, pas pour de bonnes raisons. Il explique aussi que la rhétorique, donc l'art de bien parler, vient du fait qu'on veut flatter autrui. On veut flatter pour en retirer un bénéfice. Donc on n'est pas dans les, on n'a pas de bonnes intentions en fait derrière. Donc ça, c'est un autre problème. Ensuite, autre argument, la science va permettre à certaines personnes de développer leur puissance, d'accroître justement leur force sur autrui. Et donc, on va être dans un rapport de force et qui va être également défavorable. Donc, pour lui, la science, les connaissances, peut-être, enfin, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait quand même donc, le politique qui s'assure que les connaissances soient également réparties au sein de la population, justement, pour pas qu'est-ce que vous dénonciez, c'est, j'en sais plus et donc je l'utilise à bon profit et au détriment de la majorité. Donc, le politique a un rôle central et il serait bon qu'il y ait une espèce de comité de sages, justement, de philosophes, hein, normalement, philosophes, c'est ceux qui aiment la sagesse, qui guident le politique pour prendre des bonnes actions. Dans le domaine des arts, alors les arts, ça va développer aussi le luxe, l'ostentation, donc la dissolution des mœurs, et donc ça, c'est pas bien non plus. Donc pendant que les gens essayent de savoir pourquoi il se passe ceci, cela, ils ne vont pas faire ce qui pour lui est plus essentiel, savoir discerner l'erreur de la vérité. C'est ce qui met donc pour lui, il est capital de développer la vertu des gens. La probité, donc l'intégrité, l'honnêteté, la rectitude, c'est ça qui pour lui est important. Donc je sais mieux ce qui se passe, mais est-ce que je suis plus sage ?
Pour lui,
est-ce
la vertu, c'est une morale ?
Oui, la vertu, c'est faire le bien, être vertueux, donc être un homme, être
alors,
un homme
bon. Ce juste. Qui est bien avec Jean-Jacques Rousseau, c'est que voilà, il dit que c'est bien qu'il faut imposer la vertu. Bravo, monsieur Rousseau.
Il faut cultiver la vertu.
Il faut la cultiver. Bon, après, dans sa vie personnelle, monsieur Jean-Jacques Rousseau n'avait pas beaucoup de vertu, par contre. Mais ça, c'est les ancêtres de nos grands philosophes de la rive gauche de Paris.
Oui, il y a des gens qui disent faites ce que je dis, mais faites pas ce que je
Voilà.
fais.
On sait que Monsieur Jean-Jacques Rousseau, avec ses enfants, par exemple, n'avait pas forte vertu. Mais alors, du coup, voilà. Moi, j'ai l'impression que, c'est ce que je vous dis, c'est en fait la morale imposée et celle des dominants ou des puissants, face aux gens, quoi, face au peuple, face à ceux qui ne, justement, n'ont pas les leviers.
Alors, on sait en sociologie que les.
Et c'est pareil dans l'armée,
Oui.
hein. C'est pareil dans l'armée et c'est pareil avec la technologie militaire, je pense, hein.
Alors, ceux qui. Alors, comme on a une société qui est hiérarchique, ceux qui sont au sommet sont ceux qui vont dire le bien et le mal. Voilà, ça, on le sait en sociologie. Vous voulez donc
C'est ce qui.
ça va dans votre sens.
Donc ce n'est pas. C'est pas une morale désintéressée. Ce n'est pas les évangiles, en fait.
Alors, non, non, ils vont vous dire ce qui est bien et ce qui est mal pour ce qui va permettre donc à eux de rester au sommet. Ça, c'est certain. Après, dire le bien, le mal, définir une morale, oui. Oui. Alors, cette connaissance-là qui est en sociologie, je trouve qu'elle est pas assez discutée parce qu'effectivement, on fait comme si on ne savait pas cela.
Pourquoi c'est pas discuté, d'après vous?
Alors, moi, j'en parle dans mes cours, hein, par
Oui, vous en
contre.
parlez,
Voilà. Après, je ne suis pas dans les cours des
mais
autres.
visiblement, les collègues n'en parlent pas. Pourquoi? Est-ce que, par exemple, dans l'enseignement, la formation qu'ils ont eue, ou celle que vous avez eue vous-même, est-ce qu'on en parle, par exemple, ou on n'en parle pas? Est-ce qu'on évacue le sujet? Et pourquoi on évacuerait ce sujet?
Alors, moi, je regrette le fait qu'on n'en parle pas dans la sphère publique de manière générale, parce que ça
D'accord.
permettrait de prendre un peu de recul justement sur ce qu'on nous dit régulièrement et d'avoir ce regard critique. Après, donc, pourquoi ça s'est pas plus su, je peux pas vous répondre.
Quand on dit de la sphère publique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les médias, les...
Dans la société en général, oui, dans les discussions qu'on peut avoir, les médias qui sont censés effectivement permettre d'amplifier certaines paroles, qui pourraient
Parce
être
que
utiles pour le débat collectif.
Mais moi, j'ai l'impression justement que le débat collectif n'existe plus. Les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent réellement parce que il y a la société. Ils se disent oui, mais bon, est-ce que je pense ceci? Est-ce que, en tant qu'être social, on va m'accepter dans un groupe, dans une tribu, comme disaient à l'époque les publicitaires? Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, le débat est de moins en moins présent et il y a la confortation. Ah, si ça se dit d'ailleurs, je pense que je l'ai pas bien dit. Mais bon, on essaie de conforter les opinions de plus en plus.
Alors la société est davantage polarisée, ça je pense que ça fait consensus aujourd'hui. Donc effectivement, vous avez deux camps et ça devient assez problématique parce qu'on n'arrive plus à se parler les uns les autres. Justement parce qu'on n'a pas la même analyse de la situation, on n'a pas la même compréhension des événements présents et passés, voire futurs. Et donc ça devient compliqué de pouvoir établir un dialogue et donc de débattre de quelque chose. Donc sur de plus en plus de sujets, ça devient compliqué.
Moi, je vais vous dire, je vois depuis l'avènement. Alors déjà, il y a le côté politiquement correct de la société française. Ça, il n'y a aucun doute. Je pense pas qu'un Trump pourrait sortir du chapeau comme ça avec le phrasé qu'il a, le champ lexical, etc. Parce que ça choquerait 99,9% des gens de ce pays. Peut-être pas les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie sont une forme d'élite de la bande FM, et c'est vrai, vous allez voir, hein, je sens que je vais avoir des mails comme ça, là, en direct, pour m'expliquer des choses. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous appelez notre ami Patrice ou vous envoyez des mails. Donc, à sa première des choses, il y a ce politiquement correct. Et puis, deuxième des choses, l'avènement des réseaux sociaux et des algorithmes. Des algorithmes qui vous mettent dans des cases. Parce que voilà, ils voient vos préférences, vos avis, etc. Et ils vous dirigent vers des groupes qui vous ressemblent. Et donc vous avez l'impression, parce qu'ils vous ressemblent, que vous êtes majoritaire au sein d'une société. Et donc ces groupes qui se disent majoritaires, on définissent dorénavant des morales, des valeurs, etc. Ça, vous
Oui.
l'avez pas vu, vous n'avez pas vu cette évolution? Si, j'imagine que oui.
Oui, alors quand j'en discute des fois avec des jeunes, ils me disent qu'ils sont conscients de ça et donc, le sachant, ils peuvent aller voir d'autres groupes. Bon, après, moi, je ne suis pas allée
Je n'y
voir
crois pas, ça je n'y
concrètement
crois pas.
ce qui se passe. Donc vous voulez dire que ça amplifie cette
Bien
polarisation,
sûr,
entre les deux? Oui,
parce que
oui, oui.
regardez, pourquoi X est un réseau social dit plus violent? Parce que X, pour le coup, parfois, par le biais de ce qu'ils appellent le repostage, eh ben, fait que on peut passer d'une communauté à une autre. Parce que dorénavant, les gens se définissent par communauté. Bon. Et donc, du coup, parce que ça fait sortir une communauté à une autre, eh bien, il y a bagarre. Mais les réseaux sociaux, pour la plupart, ce sont des liens amicaux sur Internet. Et ces liens amicaux se créent par vos goûts personnels, votre morale personnelle, etc. Et donc, du coup, les gens n'en sortent pas et ne veulent pas en sortir. Et pour eux, une confrontation d'idées est une violence. C'est devenu une violence pour eux. Et
On a un énorme défi, je pense, dans les années qui viennent, c'est recoller les morceaux. Parce que sur un plan virtuel, on peut effectivement faire partie de différentes communautés, bon, il n'y a pas de problème. Enfin, dans la vraie vie, on va pas pouvoir faire sécession quand même, hein. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on retrouve du liant et qu'on refasse société. Et alors ça, c'est vraiment pour moi le plus grand défi, je pense. Reconstruire le pays, c'est pas mal, mais encore, je suis confiante parce que là, je sais qu'il y a des gens qui ont des idées, que ce soit sur l'économie, le droit, l'éducation, etc. Mais alors, recoller tous ces morceaux-là,
mais vous savez ce que
justement, et
font les gens? Vous savez ce que font les gens lorsqu'ils sont en société et que bon, ils doivent voilà composer? Eh ben ça, je le remarque, ils se taisent. Ils
Oui.
composent par le silence.
Oui, parce que pour l'instant, il y a des opinions qui ne sont pas considérées comme étant majoritaires et acceptables. Donc, pour pouvoir continuer à faire partie de la communauté, effectivement, c'est le silence. Mais ça s'est vécu dans d'autres pays où c'est pareil, vous aviez une dissidence et les gens préféraient faire profil bas en public. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on se sorte de là.
D'autres pays et d'autres époques aussi.
Oui.
Par exemple.
L'Europe de l'Est, sous l'époque communiste, vous avez aussi des gens qui étaient dissidents et qui avaient une vie parallèle. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie parallèle, normalement. Donc, je pense que chez nous, ce sera pareil. À un moment donné, il n'y aura plus deux mondes parallèles qui s'ignorent ou qui font semblant de s'ignorer, plutôt.
Qui font semblant? Vous êtes sûr qu'ils font semblant de s'ignorer?
Oh oui, puisque en fait vous avez donc ceux qui pensent la majorité savent qu'il y a des gens qui ont des opinions qui sont minoritaires, et ceux qui ont les opinions minoritaires savent très bien qu'ils sont minoritaires. Donc oui, on a tout à fait conscience qu'il y a
Je
ces
vous
deux
ai
volets.
dit, on a Radio Courtoisie, l'élite des auditeurs de la bande FM. Donc voilà, et ça, voilà le message le prouve. Bonjour, la science est amorale, mais le modernisme contemporain prétend créer une science de la morale appelée éthique, qui est en fait le consensus, c'est-à-dire l'opinion la plus commune, fût-elle une erreur profonde vis-à-vis de la vérité qui devrait être le but de la science. Contradiction fondamentale qui mine la pensée occidentale dite rationnelle. La science n'est pas amorale puisqu'elle a pour but la recherche de la vérité. Elle est condamnée à être morale, à comprendre le monde et sa complexité qui devrait conduire l'homme à la contemplation. La technique, qui est l'application pratique des découvertes scientifiques, ne peut s'affranchir du bien et du mal. On sait dans l'application finale quel sera le but. Ainsi, l'invention du TNT peut aboutir à des explosifs de chantier qui permettront de se creuser un tunnel pour relier des hommes à travers une montagne, mais aussi à remplir des bombes pour raser une ville. Quant à la science politique, est-elle autre chose que l'art de la manipulation? C'est le point central. Voilà, ça c'est un sujet de doctorant, ça. On n'est pas une énergie 12 ici, on a Radio Courtoisie, vous avez vu? Ça va
Il y a
entendu?
plusieurs questions. Oui.
Allez, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, concernant les applications, donc là, On a tendance à considérer, enfin c'est la phrase qu'on entend toujours, hein, le problème c'est pas l'objet, c'est les usages qu'on en fait. Alors ça, en sociologie des sciences et des techniques, on passe toujours du temps à démontrer que c'est complètement faux, on le sait, mais c'est pareil, c'est une idée qui n'est pas pénétrée le reste de la société. On sait que la manière dont on conçoit des objets n'est pas juste le résultat d'équations de sciences physiques, hein. Vous avez des considérations économiques dedans. Aujourd'hui, ça je pense que les gens en ont bien conscience, vous pouvez avoir du politique dedans, vous pouvez avoir effectivement de la morale dedans, vous pouvez avoir des intentions personnelles aussi dedans, vous enrichir ou pas. Vous n'allez pas faire les mêmes objets en fait, vous n'allez pas faire les mêmes arbitrages techniques. Alors l'exemple de la morale, il est très connu, je peux vous le donner là, c'est celui du vélo. Quand les femmes ont voulu faire du vélo, on leur a dit, bah, comme pour le reste, hein, jupe longue. Alors essayer de faire du vélo avec une jupe longue, c'est quand même pas vraiment évident.
C'est pour ça qu'ils ont fait des vélos avec, alors, je sais pas comment ça s'appelle...
En Amazon, les femmes peuvent être voilà. En Amazon, voilà. Donc soit vous avez une solution technique, hein, qui effectivement concevoir un vélo différemment pour que les femmes puissent faire du vélo avec leur jupe longue, soit la solution qu'on a finalement trouvée, donc c'est un déplacement moral là pour le coup, c'est autoriser les femmes à être en pantalon. Donc il y a un texte de loi qui est passé, tant que la femme était sur son vélo ou le tenait à la main à côté, elle avait le droit d'être en pantalon. Voilà, donc ça c'est pour dire qu'effectivement la technique n'est pas neutre, vous y mettez des choses dedans. Alors la science devait être la contemplation. Alors c'était la science d'avant justement, donc la science d'avant c'était la contemplation et vous appreniez des choses, effectivement vous pouvez vous relier à Dieu par la science, enfin pas qu'à Dieu, mais... donc en tout cas à une transcendance. Et donc là... Bon, avec la modernité, on a dit, bon, la contemplation, c'est bien gentil, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Ce qui nous permet vraiment de vérifier les choses, hein, c'est alors, soit la logique pour les uns, soit l'expérience pour les autres, soit un mélange des deux. Enfin, on a fait quand même un mélange des deux. Mais voilà, quelque chose d'objectif, de démontrable, de vérifiable, avec des prédictions. Mais la contemplation, ça fait rire les gens, en fait, aujourd'hui, quand on parle de contemplation. On voit quand même qu'il y a Descartes a publié des méditations, il n'était pas le seul. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui publient des méditations. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui méditent encore. Donc effectivement, cette pratique-là est tombée en désuétude.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette dernière question, la science politique qui est à l'autre chose que l'art de la manipulation?
C'est un dévoiement de la politique. Moi, je vous ai donné ma définition de la politique, hein, qui est donc comment vous organisez le pouvoir au sein d'une communauté humaine pour avoir du vivre ensemble. Après, des dévoiements, des perversions, il y en a dans l'art, il y en a dans la politique. Vous pouvez en trouver un partout.
Mais la politique, c'est quand même le pouvoir. Il n'y a pas de morale dans le pouvoir. Est-ce qu'il doit y en avoir?
Alors, si vous dites qu'il n'y a pas de morale, ça veut dire que tous les moyens justifient votre fin. Et finalement, votre fin, c'est vous qui la définissez. Mais dans ces cas-là, vous pouvez faire tout et n'importe quoi.
Donc, rappelez-vous, Rome, par exemple, a quand même duré 6 siècles. Il n'y a pas un empereur d'ailleurs qui est resté, qui n'était pas mort de manière naturelle.
Alors, vous allez avoir, je pense, deux camps. Vous avez des gens qui vont vous dire, la morale finalement, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai décidé que c'était, point final. Et puis d'autres personnes qui vont vous dire, quand même non. Alors, la morale soit vient de l'extérieur, effectivement, un Dieu qui va vous dire c'est bien, c'est mal. Soit il y a une référence intérieure aussi. Vous avez un petit quelque chose à l'intérieur de vous, qui s'appelle la conscience, normalement, qui vous aide à distinguer le bien du mal. Mais il y a des personnes qui l'écrivent. Hein, pour eux, il n'y a pas de vie intérieure. Ils n'ont pas ce contact avec une antériorité. Donc, si vous n'avez pas de guide... intérieur et que vous refusez un guide extérieur, effectivement, il ne vous reste plus rien. Mais je peux aussi vous raconter l'histoire de Bernard Mandeville, parce que c'est quelqu'un qui a marqué son époque avec la fable des abeilles de 1714. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, lui vous explique, et il a été repris par bien d'autres personnes après, c'est ça qui est peut-être plus inquiétant, il vous explique que donc, dans le fonctionnement d'une ruche, si la ruche marche bien, c'est parce que chaque des abeilles ne pense qu'à son intérêt propre. Et donc, il est bon que chacun ne pense qu'à son intérêt personnel, de manière donc très, très égoïste, parce que la somme de ses intérêts individuels fait la vertu publique. Donc, c'est un encouragement à faire tout ce que vous voulez qui vous satisfait, vous, indépendamment de la considération pour autrui.
Oui, mais une ruche d'abeilles, c'est un instinct animal vis-à-vis d'une reine.
Alors... Oui, moi je suis d'accord avec vous.
Oui.
Mais ce qui m'intéresse, c'est lui, ce qu'il en dit, la conclusion qu'il en tire, et surtout ce que les autres de son époque et après ont fait de lui en disant « Oui, Mandeville, il a raison. » On a bâti quand même un pan important de la science économique là-dessus. en disant que voilà, justement, la science économique se veut donc amorale, déjà parce que les économistes vous le disent, hein, donc la question des fins, la question du pourquoi, c'est pas moi. Moi, je suis technicien, c'est le politique qui doit me dire « je veux faire telle chose », et moi, le technicien, je vais lui dire comment atteindre ses fins. Et donc, la science économique s'est bâtie sur des hypothèses, donc notamment donc celle selon laquelle l'homme est un être égoïste, ne recherche que son intérêt, l'avidité, gagner le plus d'argent, etc. Et donc, ça a été considéré comme étant acceptable, puisque de toutes les façons, les vices privés font la vertu publique. Donc, il n'y a pas de question à se poser.
Alors, je rappelle, je suis avec Sophie Lefèze, sociologue. Des sciences techniques, j'arrive pas à
c'est
le dire.
Ça.
Faut que je l'ai, faut que j'ai l'intitulé. Ben oui, sociologue des sciences techniques. Je peux être provocateur ou pas?
Essayez toujours.
Ah, bon, je vais être un peu provocateur. Je suis provocateur seulement parce que je suis un méchant garçon. Est-ce que la morale, c'est pas très féminin? En réalité.
Ah, je vois pas le rapport.
Parce que là, on a parlé politique.
Oui.
Mais la politique, c'est de la violence. C'est quelque chose qui est quand même mis de côté par la gente féminine qui s'en offusque. Depuis que les femmes sont entrées en politique, elles ont ajouté leur propre morale féminine, et c'est très très bien. Mais du coup, on met de côté cette forme de violence dans la quête de pouvoir.
Je pense qu'il faut peut-être distinguer la force de la violence, parce que l'usage de la force n'est pas forcément négatif ou n'est pas forcément le mal. Donc moi, je pense plutôt à un équilibre des deux, si vous voulez, où vous avez effectivement, alors ça fait peut-être un peu cliché quand même, hein, l'homme, une espèce de bras armé, guidé par la sagesse de la femme.
La justice.
Moi, je ne veux pas trop rentrer sur ce genre de terrain-là. Mais en tout cas, donc juste pour dire que c'est pas parce
que je suis très provocateur, vous voyez.
La politique se pratique d'une certaine manière qu'il faut dire que c'est la politique et qu'elle doit se pratiquer ainsi et que tout usage de la force est négatif.
Comment faire
pour se défendre, se protéger, ou faire respecter le droit justement.
Mais comment faire quand autrui n'a pas de morale?
Alors ça, c'est une excellente question que je me pose pour
merci,
l'instant.
Merci, vous avez vu. J'en pose parfois quand même. Hein.
C'est une question que je me pose parce que, donc, comme vous l'avez dit, donc, je m'intéresse aux questions militaires. Et jusqu'à présent, on a essayé d'appliquer ou de maintenir la paix par la coercition. C'est une forme de paix. Alors, on parle de paix positive et de paix négative. Hein. Donc, paix négative, justement, c'est... Pour donner une image, je pointe un revolver sur la tempe du voisin pour qu'il se tienne tranquille. Et donc la paix, elle se maintient parce qu'on a tous peur les uns des autres. Enfin, est-ce qu'on a le sentiment de vivre vraiment en paix quand on vit comme ça? C'est pas dit. L'autre forme de paix, c'est plus quelque part de la prévention en fait. Donc miser sur l'éducation, que tout le monde mange à sa faim, qu'on vive dignement, etc. etc. Et donc normalement, il ne va pas censé y avoir de raison, de disputes, en tout cas des disputes graves. Et après, vous pouvez donc mettre en place des systèmes de règlement des conflits, ce qu'on a essayé de faire aussi, donc ça, ok. Mais donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand vous avez quelqu'un qui est très récalcitrant et qui veut absolument taper son voisin, voilà. Et bien ça, effectivement, c'est une grande question. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'avoir une force armée. Donc, voilà, on en revient sur cette notion de force-là, pour ne pas être démuni face à quelqu'un qui veut absolument taper le voisin. Alors, ça demande à... réfléchir sur votre culture guerrière, là, comment vous allez vous battre, avec quelle valeur, avec quelle éthique, avec quels moyens également, vous allez vous assurer que cette personne cesse de nuire à ses voisins. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles je réfléchis à titre personnel, parce que je pense qu'il est important qu'on se pose ce genre de questions collectivement aussi. D'ailleurs.
Vous y réfléchissez parce que, en réalité, les réponses soit sont multiples, soit sont compliquées. À mettre en place.
Oui, c'est
parce que la nature humaine, faut pas l'oublier ça aussi. C'est un inconnu.
Alors la nature humaine, c'est encore un autre sujet parce que c'est pareil. Vous avez deux camps dans l'histoire, ceux qui pensent que la nature humaine est mauvaise et ceux qui pensent que la nature humaine est bonne. Donc Moi, je pense qu'il y a les deux, en fait, dans l'homme. Il y a à la fois du bien et à la fois du mal. C'est pour ça qu'on nous a donné un libre arbitre. Donc, je pense que le libre arbitre existe vraiment. Et c'est Jean-Pic de la Mirandole qui disait que justement, ce qui fait la dignité de l'homme, c'est qu'il a ce libre arbitre qui lui permet de choisir soit de faire le bien, soit de faire le mal. Alors, ceux qui pensent que l'homme est plutôt mauvais, donc l'homme étant loup pour l'homme, il fera toujours des conflits, etc. Ceux-là, généralement, vous les retrouvez dans ceux qui vont penser qu'il faut absolument donc faire de l'armement, se défendre, se protéger, s'armer le plus possible, parce que de toute façon, ça va arriver à un moment donné. Avec le problème qu'on connaît bien, c'est que quand vous vous armez pour vous protéger, en tout cas, c'est ce que vous dites, les voisins, eux, ce qu'ils voient, c'est que vous êtes en train de vous armer et que vous constituez une menace régionale, et donc eux-mêmes vont s'armer et ça va alimenter une course aux armements. C'est ce qu'on appelle le dilemme de sécurité. Donc là, il y a quand même un problème aussi là-dessus. Je pense qu'il faudrait essayer de trouver une solution. Et donc, ceux qui pensent aussi que l'homme est mal, dans ces cas-là, de toute façon, il n'y a rien à espérer. Pourquoi essayer de cultiver le bon chez autrui? Ça n'a pas d'intérêt. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir aussi. Et donc, la troisième chose, après, je vous laisserai parler, c'est que les libéraux, pour parler d'eux, là, dans les siècles antérieurs, ils ont essayé de bâtir un système qui garantissait l'ordre. Il y a quand même plusieurs personnes qui essaient depuis des siècles de garantir l'ordre. Alors, je ne vais peut-être pas vous tout vous développer là, mais juste pour dire qu'ils se sont dit, on ne va pas partir du principe que l'homme est bon, parce que c'est illusoire. L'homme, il est donc paresseux, il est avide, il est égoïste. On va partir de ça et on va bâtir un système qui s'appuie là-dessus. Mais ce qu'on constate, me semble-t-il, a posteriori, c'est que si vous bâtissez un système qui repose là-dessus, en fait, vous entretenez ces vices-là, puisque votre système est bâti dessus.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un libre arbitre. Vous êtes sûr?
Il y a un débat.
Vous croyez qu'il y a un libre arbitre?
Ça, c'est ma croyance personnelle, mais je sais qu'il y a un débat là-dessus.
Je pense que dans le fond, même si on se croit libre de choisir, en réalité, c'est écrit.
Alors, il y a une part de déterminisme, ça, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'on est 100% déterminé?
Après, c'est un autre débat. Tiens, on fera ce débat, tiens, de ces quatre. On va passer au Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être aussi nombreux. Les commentaires et les mails affluent. Continuez à appeler et à envoyer des mails. Pour moi, c'est plus simple du coup. Hein. Comme ça, je les lis. Seulement, j'aurais fait la moitié de mon travail. Mais surtout, soutenez Radio Courtoisie. Voilà, vous savez bien que Radio Courtoisie, c'est votre radio. Vous en êtes les patrons parce que vous nous permettez d'être libre et indépendant. D'habitude, dans les autres grands médias, ce sont les annonceurs, ceux qui font de la publicité, la réclame, qui choisissent leurs invités, la ligne rédactionnelle, etc. Nous ne voulons pas de ça ici à Radio Courtoisie. Donc nous avons choisi que ce serait vous les patrons. Et donc, vous qui nous aiderait justement à maintenir ce cap. Je suis avec Sophie Lefez, sociologue, je peux dire docteur oui. Sophie Lefez, sociologue des sciences et techniques. On parle de morale dans la science, dans le militaire, pour une discussion passionnante. Et vous êtes passionnés, en effet, tous ici à Radio Courtoisie. D'ailleurs, tiens, j'ai un commentaire. Bonjour, la censure est-elle une sorte morale?
Oh là là, il faudrait revenir sur pourquoi il y a une censure. Si vous parlez de censure, vous parlez de liberté d'expression, j'imagine. Donc on va plutôt poser la question de... en fait, vous demandez, est-ce qu'on peut limiter la liberté d'expression? Est-ce qu'il est bon de limiter la liberté d'expression? Jusqu'où? Ah, ça nous ramène à ce qu'on disait sur la morale au tout début, puisqu'en fait, vous avez une façon de définir les libertés d'expression dans la culture française qui n'est pas la même que dans la culture anglo-saxonne, où on va davantage autoriser les gens à s'exprimer librement, se disant qu'après tout, c'est un peu se voiler la face que de censurer certaines choses, de toute façon, ça va se dire. Et ils vont peut-être davantage miser que nous sur l'esprit critique des gens, se disant si on affiche donc l'opinion A et l'opinion contraire, il y aura une argumentation qui va soutenir les deux opinions et les gens seront peut-être assez fins pour faire la part des choses. En France, on mise moins là-dessus et on est un peu plus restrictif. Après, pour moi, ça relève du débat, justement. C'est le genre de débat qu'on devrait y avoir au sein d'une société où, à minima, parmi les représentants, puisqu'on a une démocratie qui est représentative, pour définir où on met le curseur. Alors, on avait une question au tout début de l'émission sur, justement, sur le fait que c'est difficile de définir les normes du bien et du mal. Alors, il y a peut-être une sur laquelle on peut être à peu près tous d'accord, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est peut-être un principe, on peut en trouver d'autres. Mais une fois qu'on a ces grands principes-là, il faut les décliner dans le quotidien. Et c'est là où ça devient extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'ailleurs des juges hein, de pouvoir dire où on met la ligne et des fois on se trompe là où on la met. Mais ce qui serait important, c'est d'avoir des débats justement sur où on met la ligne, pourquoi on la met là, on l'a mise là il y a 20 ans, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours pertinent de la garder là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on la décale? Et moi je regrette l'absence de débat.
C'est vrai, là, il y a une vraie absence de débat dans ce pays. Alors un commentaire. En 1775, un ingénieur français, Duperron, présenta au jeune Louis XVI un orgue militaire qui, actionné par une manivelle, lançait simultanément 24 balles. La machine parut si meurtrière au roi et à ses ministres, Malesherbes et Turgot, qu'elle fut refusée et son inventeur considéré comme un ennemi de l'humanité. À tout vouloir émanciper, nous avons aussi émancipé la guerre. Jadis, occasion de sacrifice et de salut pour quelques-uns, elle est devenue la damnation de tous. Cet exemple pour illustrer à mon humble avis la nécessité d'une loi naturelle et d'une morale naturelle et de personnes pour porter ces valeurs. Bien cordialement.
Effectivement.
Je ne connaissais pas cette histoire.
Des auditeurs très... cultivés. Oui, effectivement, par le passé, il y a eu des armes qui ont été interdites parce qu'on les trouvait inhumaines, effectivement. Aujourd'hui, ça ne nous viendrait plus tellement à l'idée de considérer que certaines armes le sont. Et ce qui montre qu'il y avait justement une morale du côté du politique, puisque là, c'est le roi quand même qui dit non, là, ça va trop loin. Aujourd'hui, c'est un débat qu'on a beaucoup moins. On va plutôt se mettre sur le terrain du droit, en fait, aujourd'hui. Est-ce que ça respecte donc le fameux droit des conflits armés? Puisqu'il y a des règles d'engagement en France, hein. On ne fait pas ce qu'on veut justement. Hein. Il y a des règles voilà, sur la manière de faire la guerre.
Il aurait regretté l'ancien Louis XVI justement de ne pas avoir peut-être eu cette arme. S'il savait comment il a fini.
Alors, c'est compliqué de parler à la place de Louis XVI.
Je pense pas,
parce que quand vous avez une certaine éthique personnelle, justement, je pense que vous la gardez jusqu'au bout et vous mourrez droit dans vos bottes.
Mais c'est quand même, là, cette anecdote, quand même, et ça sacrément parlante et frappante.
Oui.
Parce que, moi, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'à l'époque... Parce que vous dites, voilà, on ne se poserait pas la question aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, il y avait Dieu, au sein des foyers, à la cour du roi, que justement, on s'est dit, tiens, on ne peut pas aller aussi loin, et que justement, cette morale religieuse est tombée aujourd'hui. Je pense depuis peut-être la Seconde Guerre.
Il y a une partie, mais il y a également un autre volet, mais c'est lié quand même. C'est le développement de la pensée utilitariste, de la rationalité instrumentale, si vous voulez. Donc, pour tout un tas de raisons, on a pensé progressivement au fil du temps que l'important, c'était donc d'atteindre l'objectif, de bien remplir la fonction. Donc, les autres considérations sont passées au second plan. Donc, c'est vraiment la rationalité instrumentale qui a prédominé. Mais ça, c'est tout un sujet.
C'est quoi
le
premier plan,
aussi.
Du coup? C'est quoi? C'est la victoire à tout prix?
Quasiment. Quasiment, parce qu'il reste quand même donc, les limites du droit, mais effectivement, ça va être qu'est-ce qui me permet d'atteindre mon objectif le mieux possible. Alors aujourd'hui, ça va être le plus vite, avec un minimum de pertes humaines. Donc voilà, vous mettez un certain nombre de conditions, mais votre but, c'est voilà, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre ma fin le mieux possible.
Oui, parce
le plus
que,
efficacement possible,
parce qu'il y a
la performance.
Parce qu'il y a la morale du vainqueur.
Oui.
Mais c'est quand même important. Parce que, je vais prendre l'exemple de la Seconde Guerre, le bombardement de Dresde, dont on dit aujourd'hui qu'il n'était pas utile, mais qui n'a jamais été condamné. ou les bombes nucléaires, enfin atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, alors que les Japonais étaient déjà quasiment en déroute. Tout ça n'a jamais été condamné.
Non.
Parce que le vainqueur.
Oui, et parce qu'on a présenté l'histoire comme étant c'était nécessaire pour atteindre la guerre, donc ça nous a permis d'atteindre l'objectif qui était d'imposer une paix, donc finalement les moyens, on va moins les discuter.
On pourrait faire aujourd'hui Nagasaki et Hiroshima ?
C'est une autre question, parce que vu comment c'est en train de se dérouler aujourd'hui, moi, je n'exclus pas le fait qu'à un moment donné, il y a un usage atomique. Alors, je ne peux pas vous dire de qui, mais vu comment on a une escalade, en fait, qui ne cesse pas, je trouve la situation vraiment inquiétante. Après, donc, encore une fois, c'est une fois que vous avez même défini votre droit, est-ce que les États-Unis sont partis de ce droit-là ? Donc, je vous ai dit non. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez penser ce que vous voulez. De toutes les façons, ils s'en fichent, hein, de facto. Après, comment vous définissez votre droit et comment vous l'appliquez à derrière ? Comment vous sanctionnez ?
Bien sûr.
Parce que si vous mettez des lois, mais de toute façon, vous n'avez pas de sanctions derrière, les puissants s'en fichent. Bon, vous n'allez pas les attraper par le coup.
Je vais aller. Je sors un peu de la sociologie pour aller un peu vers le juridique. Bon, les États-Unis ne sont pas ces pays, tout ça, ok. Mais s'ils venaient à perdre, imaginons, s'ils venaient à perdre, les actuels Trump et compagnie seraient jugés, quoi qu'il arrive.
Alors moi,
parce qu'ils perdraient, parce qu'ils auraient perdu.
Alors de même qu'on a fait le tribunal de Nuremberg, on peut supposer que le camp d'en face décide de faire son tribunal
parce que,
à un moment donné.
Les Allemands de 45, de 40-45, ils n'ont pas signé.
Tout à fait. Ils n'avaient rien demandé.
Voilà.
Ils n'étaient pas partie prenante du tribunal.
Voilà.
Je m'attends en tout cas à ce que si les États-Unis perdent, il y ait une refondation de l'ordre international. Ça me paraît assez certain. Parce
vers
que vous avez un bouleversement des rapports de force qui va se faire. Et donc après, je ne sais pas comment un ordre va être refondé. On voit que les États-Unis, les Nations Unies, on n'en entend quasiment plus parler d'ailleurs. Donc il est possible qu'on passe à autre chose. Donc moi, ce n'est pas quelque chose que j'exclus dans les années qui viennent.
Alors, tiens, question d'auditeur. Toute société n'a-t-elle pas besoin d'un ordre moral, d'une religion pour relier les gens, même fondée sur le mensonge ? Tiens, même fondée sur le mensonge. Ça, c'est un peu immoral, hein. L'invention d'un enfer pour faire apprécier le paradis dans lequel il se trouve. N'est-ce pas ainsi depuis 2500 ans la condamnation de Socrate comme celle des révisionnistes aujourd'hui ?
Alors, je dirais que là aussi, pour l'instant, moi, j'ai vu à peu près deux camps. Donc, ceux qui pensent qu'effectivement, la religion, c'est ce qui va permettre de faire tenir les gens pour avoir un respect de l'ordre, donc le respect de ce qui est bon à faire et ce qui est mal à faire. Et après, donc, vous avez d'autres individus qui sont donc mes fameux libéraux, entre autres, mais vous en trouvez aussi tout au long du XXe siècle, qui donc avaient la même idée. On va essayer d'avoir l'ordre public, parce que les gens, justement, qui sont en haut de la hiérarchie, aiment bien l'ordre public. On n'aime pas les révoltes, les révolutions, les émeutes, etc. Les manifestations, c'est pas bien. Ça perturbe plein de choses. Donc, comment faire maintenir l'ordre, surtout si vous voulez vous défaire de Dieu ? Alors dans ces cas-là, vous avez donc la méthode, je vais faire très simple parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc de la
non,
main...
Non, il en reste une demi-heure.
Ah, une demi-heure. Donc,
ben voilà.
Ah ben j'ai le temps alors.
Ben
très
oui,
bien.
Vous avez le temps.
Donc comme je vous disais, quelque chose, un ordre qui fonctionne tout seul. Parce que s'il faut compter sur un chef politique, un roi, un empereur, ce que vous voulez, ça peut être bien parce que lui, il est bien, mais à un moment donné, il meurt, ou on peut l'aider, voilà, on le remplace, il y a quelqu'un d'autre, et si cette personne-là, elle n'est pas bien, eh ben, du coup, ça va être la pagaie dans le pays. Donc, on ne peut pas compter sur le politique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'auto-régule, en fait. Donc, on va mettre en place un système, ce qu'on a fait dans l'économie, ce qu'on a fait dans le politique, pour que, justement, sachant que les gens sont mauvais, il y ait quelque chose qui les ramène dans le bon sens à un moment donné. Donc, dans l'économie, c'est ce principe de la main invisible. Dans le politique, l'exemple qu'on donne toujours, c'est celui de la Constitution américaine avec son système de poids et de contrepoids, puisque, justement, ça ramène toujours à l'équilibre du pouvoir. Et au niveau de la société, on a aussi essayé donc de mettre en place quelque chose comme ça. Alors, je pense notamment à Burrhus Skinner, qui est le fondateur du behaviorisme en psychologie, qui lui donc était justement partisan de l'idée que l'intériorité chez les êtres humains, c'est pas très intéressant, de toute façon on n'y a pas accès, c'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est important, c'est les comportements qu'on observe. Donc il a une logique assez basique, hein, c'est stimulus-réaction. Hein, voilà. Donc pour comprendre les règles, les lois de fonctionnement des êtres humains, c'est donc je les observe de l'extérieur, je fais advenir un stimulus, je vois comment il réagit, et de loi je dégage des lois de comportement. Une fois que j'ai ces lois de comportement, je peux les utiliser pour maintenir l'ordre au sein d'une société. Donc il a publié un livre qu'il a écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Walden 2, c'est une communauté utopique, où il explique voilà, sa communauté idéale, c'est des gens qui suivent les fameuses lois donc behavioral, qui sont définies par une communauté de sages, donc des gens qui, sur qui repose finalement la bonne morale. Alors comment on va les choisir? Ça c'est une excellente question. Et qui vont dire aux autres comment il faut qu'ils se comportent. Donc vous avez toujours cette idée-là de donc, soit c'est Dieu qui va guider les gens et on va leur faire peur, soit vous avez un système beaucoup plus doux. Ce que je vous raconte là, c'est de l'ingénierie sociale en fait, hein, finalement. C'est comment par des incitations où les gens ne vont pas forcément trop voir ce qui se passe, ils vont intérioriser les normes que vous allez leur inculquer pour bien se comporter au sein d'une société et que ce soit toujours harmonieux et ordonné. C'était aussi le rêve de John von Neumann, hein, qui disait, après ce qu'il avait vu la Deuxième Guerre mondiale, etc., lui aussi aspirait à bâtir une société, mettre en place un système qui s'autorégule.
Alors, une auditrice n'est pas contente, après ce que j'ai dit. Quand on parle d'instinct animal, c'est un peu dévalorisant, notamment pour les animaux. L'instinct, c'est de l'intelligence immédiatement disponible. Bon, c'est pas faux. J'appelle ça un animal, je sais pas comment on pourrait dire ça. Je ne dévalorise pas pour le coup. Mais tiens, ça me permet de rebondir sur le commentaire de madame. Est-ce qu'il y a une morale dans un groupe d'animaux, par exemple? Ou est-ce que c'est essentiellement régi par cette intelligence immédiate disponible?
Alors là, vous posez une question d'éthologie. Je ne suis pas spécialiste d'éthologie. Tout ce que je peux vous dire, puisqu'on a parlé de la force et du combat, c'est que ce qu'on observe, si les animaux peuvent éviter un combat, c'est quand même toujours mieux. Hein, voilà. Donc, ils peuvent avoir des gestes de soumission pour dire « Ok, c'est bon, je reconnais que c'est ton territoire, je ne remettrai plus les pieds, merci, au revoir. Voilà. » Donc, on ne va pas forcément à l'affrontement en fait, parmi les animaux.
Donc, c'est pas...
La fuite, je me soumets ou je me bats. Vous avez en fait trois options, c'est ce qu'on dit en éthologie.
C'est ce qui nous différencie de l'animal pour le coup aussi.
Il y en a qui font ça aussi, en vous disant « Ah d'accord, je vois la menace, c'est bon, je m'en vais. » Voilà.
Oui, mais oui. Derrière ça, c'est comme dit madame, une intelligence. C'est pas une morale, un état d'esprit, etc.
Peut-être parce qu'on a un libre arbitre, pour vous taquiner
un petit peu. Ce que eux n'ont pas.
Alors, je me pose la question pour les animaux. Dans le passé, donc, certains disaient que justement, la différence entre les humains et les animaux, c'était que nous, on avait ce libre arbitre-là. Je n'ai pas vérifié l'assertion.
Alors, commentaire d'un auditeur. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Cette pensée résume tout le modernisme. Mais pour certains, tout est permis au nom de leur Dieu, celui qui les a choisis. Ceci est en opposition totale avec le choix de Dieu dans le christianisme où ce choix impose des renoncements à ceux qu'il appelle et ne leur donne que des devoirs vis-à-vis des autres sans aucun droit particulier. Servir et non pas se servir, ce qui devrait fonder la légitimité du pouvoir. Ce pouvoir n'est-il pas de droit divin?
Alors, servir le peuple plutôt que se servir, effectivement, là, je suis entièrement d'accord. Normalement, le politique, c'est censé être ça, c'est être au service de l'intérêt public, de l'intérêt général. Et comme aurait dit Jean-Jacques Rousseau, rendre la société florissante. Normalement, c'est censé être ça. Après, comme je vous disais, ça a été...
J'imagine que ce que dit monsieur, c'est ça ne peut pas se passer dans un pouvoir électif. J'imagine. Et donc, comme à l'époque, les rois avaient la légitimité divine, Eh ben, peut-être, il pensait plus au bien commun par ce biais-là.
Vous avez le sens...
Point d'interrogation. Hein.
Oui, voilà, je pense à Henri IV qui était qui se faisait appeler le Saint-Empereur romain germanique, qui n'était pas forcément extrêmement... comment dire...
Je crois, il avait ce titre-là ?
C'est lui qui aurait bien aimé l'avoir.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Mais qui était plutôt réputé pour être violent, sanguinaire, avec ses proches, etc. Donc c'est pas...
Ah bon, le bon roi Henri IV ?
Germain, je ne parle pas de...
Ah, d'accord.
De la France, celui-là. Donc, alors, je pense que la question... Alors, je ne sais pas si le fait de se réclamer de Dieu fait qu'on va être plus dans la droiture. Ce n'est pas forcément une garantie. Par contre, ça pose la question, si on n'a pas donc cette garantie divine, comment est-ce qu'on va faire ? Donc, en fait, comment est-ce qu'on va choisir ses représentants ? Ça, c'est une excellente question aussi, où on a des réflexions sur comment faire que ça se passe bien, mais ça reste très compliqué. Est-ce qu'il faut les rémunérer ou pas ? C'est une question qui s'est posée au 19e siècle. Si vous ne les rémunérez pas, ça veut dire que vous allez avoir que des gens qui sont capables de s'assumer financièrement pendant la période pour assumer les responsabilités.
Ou des corrompus.
Voilà, donc c'est pas bien. Et si vous les rémunérez, ce qu'on a fait, ça donne pas forcément un résultat formidable. Donc c'est vrai que cette idée de contre-pouvoir, elle me paraît nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante ? Il y a d'autres personnes qui réfléchissent.
Alors, il y avait trois choix. Il y a l'élection, il y a ce pouvoir là, par la filiation, ouais. Et puis il y a ce qu'avait fait Rome à l'époque. Où c'était pas forcément de la filiation, c'était... il y avait pas... Et pour le coup, Rome, je crois qu'aucun des empereurs n'a vraiment survécu de mort, n'est mort de manière naturelle. Tous étaient plus ou moins assassinés.
Je pensais que vous parleriez du tirage au sort comme alternative.
Il y a aussi tirage au sort de notre ami Patrick. notre ami Chouard.
Qui était utilisé à Athènes, effectivement.
À Athènes, oui.
Alors, c'était pas mal leur système, puisque c'était pas n'importe qui pouvait se présenter. Vous avez quand même un comité qui s'assurait que les candidats étaient quand même un minimum valides. Et après, vous avez effectivement ce tirage au sort. Donc, il y a des vertus, en fait, dans tous les systèmes.
Oui, mais notre ami Étienne Chouard, enfin, moi, je lui ai toujours dit, oui, mais Athènes n'a pas survécu de sa fameuse démocratie.
Sachant que vous n'avez pas de système idéal de toutes les façons, je pense qu'il faut faire une combinaison intelligente de plusieurs systèmes. Il ne s'agit pas de reprendre tel quel un système qui était valable à une période donnée, mais faire toujours avec la société telle qu'on l'a aujourd'hui. Je lui reconnais la vertu de au moins lancer le débat sur comment réorganiser le système politique actuel, parce qu'il y a vraiment besoin de se poser ce genre de questions.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, tiens, si vous aviez la possibilité de le faire ?
Moi, je suis plutôt partisane de la démocratie directe.
D'accord.
Pas une démocratie représentative.
Suisse.
Autogestion.
Autogestion, d'accord.
Je vais assez loin là-dessus. Oui, plus en autogestion. Ce qui pose des questions, puisque, en fait, il y a des questions comme les affaires étrangères, la monnaie, qui peut-être ont besoin de coordination entre les unités autogérées. Donc, dans ces cas-là, j'irai carrément à une échelle plus micro et pas forcément avoir des grands États. Mais après, ça demande de repenser quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça, j'en suis consciente.
Est-ce qu'il est possible, quand les idées sont bonnes sur le papier, de les traduire, sachant la nature humaine, dans la vie réelle ?
D'où le fait de penser à des contre-pouvoirs et se dire que, voilà, en cas de dérive, qu'est-ce qu'on prévoit comme solution ? Alors, ça parlera peut-être pas à tous les cas de figure, mais c'est déjà bien de l'avoir anticipé et d'être toujours vigilant, parce que ce qui va marcher même à l'instant T peut ne pas marcher 10 ans, 50 ans, 100 ans plus tard. Donc il faut être en capacité de faire évoluer les choses, ce qu'on a tendance à pas forcément bien faire non plus. Donc à un moment donné, ça coince tellement qu'il faut tout reprendre de fond en comble.
Alors je rappelle Sophie Lefèze, sociologue des sciences et techniques. Question, chère Sophie, la morale peut-elle être préconsciente?
Alors, est-ce que par préconscience, ça rejoint un peu ce que je disais sur la conscience intérieure qui vous guide sur le bien et le mal? Encore une fois, dans ce que je disais, c'est qu'il y a des gens qui peuvent entendre cette voix-là, il y en a qui l'entendent et il y en a qui ne l'entendent pas. Donc, voilà. Est-ce que ça serait intéressant peut-être de voir plusieurs personnes qui l'entendent si on est d'accord sur les mêmes choses? Je ne sais pas s'il y a une étude là-dessus qui a été faite.
Vous étudiez parfois sur ces types de comportements ou pas?
Non.
Du tout? C'est trop dur. J'imagine que c'est trop compliqué.
Les questions sur lesquelles je travaille, non, ça demanderait des moyens, de recruter des gens.
Voilà, c'est un peu compliqué, j'imagine. Ah tiens, la ruche est surtout un être. Chaque abeille est en plus une cellule de cet être qu'un être lui-même. Et son comportement est parfaitement régulé. Les seules abeilles qui seraient individualistes sont les abeilles solitaires. Les mâles, je crois. Parce que je crois que les mâles
oui.
Doivent féconder la reine et puis après ils sont chassés.
Oui.
Qui en ce moment de l'année ont déjà pondu leurs œufs de l'an prochain dans des trous dans les bois et soigneusement refermé l'alvéole avec une sorte de pâte de poussière de bois et de salive. Elles ne font ni réserve ni miel et meurent une fois la ponte faite en moins de 2 semaines dans toute l'année. La fable des abeilles est bien un modèle d'expérience de pensée stupide, résultant d'un manque de connaissances scientifiques. Oh là là, monsieur là, pas content.
Mais c'est exact, c'est les réponses que j'ai parfois de personnes quand je raconte cette fable des abeilles. Donc je me dis, oui, je connais les abeilles, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais voilà, donc ce qui montre bien que cet individu-là, donc Bernard Manteville, écrit quelque chose de contestable, mais en fait sur vraiment deux plans, en fait, c'est même pas factuel.
Ouais. Donc il a un peu... réussi à tourner les têtes des gens de l'époque.
Oui, voilà. Et effectivement, donc Adam Smith s'appuie là-dessus, mais il y en a quand même bien d'autres. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, vous trouvez aussi des personnes qui s'appuient sur Manteville pour justifier que l'égoïsme soit au fondement des choses, etc. Les études d'anthropologie montrent que, en fait, non, le fond de l'humain, c'est pas d'être égoïste, hein, mais c'est d'être altruiste en réalité.
Bonjour, La Fontaine disait « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Ne peut-on pas aussi dire que la morale du plus fort est toujours la meilleure? On en a parlé, mais bon,
oui.
C'est bien de répéter.
Oui, en effet.
Les médecins des camps nazis, même complices des principaux criminels coupables d'expériences ignobles, ont été pour la plupart condamnés à de longues peines de prison et libérés en moins de 5 ans. La plupart ont repris une activité médicale en Allemagne de l'Ouest et sont morts dans leur lit. Il y a même certains qui sont allés dans des aux États-Unis pour
Tout
certains programmes et en URSS pour d'autres programmes et même en France. Je sais que le programme Ariane, on a eu des scientifiques allemands.
Ah, en France, oui.
Ouais. N'espérez pas trop de la fin du monde. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce qu'on en revient sur cette logique utilitariste hein, qui est, bon, la morale, bon, peut-être, mais enfin, leur savoir est tellement intéressant, on pourrait en bénéficier, donc ce qu'ils ont fait, on va passer l'éponge. Voilà.
Moi, j'ai l'impression, moi je vous le dis, hein, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus féminin qu'autre chose.
La sagesse serait quelque chose de plus féminin, vous pensez?
Est-ce que c'est de la sagesse, la morale?
Pour moi, les deux sont liés. Parce que savoir distinguer le bien du mal, donc ça, on a dit pour la morale, et donc se comporter selon le bien. Et alors, comment vous définissez la sagesse?
Pour moi, la sagesse, c'est la justice, plutôt.
Vous avez alors la justice et la justesse. C'est des choses qui sont liées.
Parce que la justice, bon, c'est pas comme les mathématiques où il n'y a qu'un résultat.
Ouais.
Mais, enfin, la vraie justice, pas les juges de la cité ou, vous voyez, ou du tribunal de je sais quoi.
On est d'accord.
Non. Je parle de la justice. La justice, il n'y a pas de... Enfin,
pour rendre bien la justice, vous devez être un juge sage, vous pensez
bien
pas?
Sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une justice et peut-être parfois une décision, alors que des morales, il peut y en avoir des multiples.
Comment ça, des multiples morales? Selon les sociétés?
Selon les sociétés, selon les cultures, selon les classes sociales, selon même la géographie. Elles sont plus que multiples.
Alors là, vous pointez du doigt quelque chose que je trouve intéressant parce qu'effectivement, donc dans mon champ, en sociologie, je vois qu'on va se placer au niveau où vous êtes là. Donc, on va dire, bon, de toute façon, nous, on ne va pas être sûr donc, de l'absolu, on n'est pas sûr du transcendantal. On observe que voilà, bah, le beau, à un moment donné, c'est ça, puis après, c'est autre chose. La morale, c'est ça, et ici, c'est autre chose. Donc on est sur ce relativisme, on en revient là-dessus. Donc il y a des gens qui pensent que c'est juste à ce niveau-là que les choses se passent et on ne va pas aller plus haut. Moi, je préfère me placer à un autre niveau, justement. Alors là aussi, on vient sur les croyances. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose donc, d'au-dessus, d'universel, de transcendantal. Et donc, non, il y a quand même une vérité sur laquelle on peut être à peu près tous d'accord. Sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, je pense qu'il y a certains sujets sur lesquels on peut être quand même globalement d'accord. Donc après, voilà, vous avez ces principes-là, et donc le monde des idées, disait Platon, et après, comment vous le déclinez dans votre quotidien? Et c'est là où se trouve la difficulté pour l'humain. Alors je pense qu'on devrait s'efforcer d'être chacun sage, mais ça c'est mon éthique personnelle, justement, dans ma philosophie personnelle, et donc l'appliquer au quotidien. Après, on n'a pas tous cette philosophie-là.
Oui, parce que, oui mais la sagesse...
Qu'est-ce que c'est que la sagesse ?
Non, mais oui, bien entendu. Mais ça vient aussi avec une expérience, avec un âge.
Oui.
D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Dans les sociétés d'autrefois, la sagesse était. Alors, je vais dire l'homme, pour le coup. C'est ça. Oui, rappelez-vous, voilà, la sagesse, c'était l'homme sage ancien. Mm-hmm. C'était pas la femme.
Ça dépend des communautés et ça dépend des époques.
En tout cas, des communautés européennes.
Alors là, si vous voulez, on va rentrer sur certains travaux de femmes,
hein, d'accord,
qui s'efforcent de montrer que, en fait, il y a très 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 longtemps, le monde n'était pas patriarcal, mais plutôt matriarcal.
D'accord.
Voilà, et que donc cette partie-là a été effacée de l'histoire justement par les vainqueurs, donc plutôt par les hommes, hein, qui nous racontent qu'aujourd'hui, non, on est passé tout de suite au patriarcat. Il n'y a pas eu d'étape intermédiaire.
C'était comme ça en Europe.
Alors, là, on est sur plusieurs millénaires en arrière. Donc, si vous parlez de l'Europe, il y a plusieurs millénaires en arrière, il ne se passait pas forcément grand-chose. Après, là, je ne suis plus compétente en matière d'histoire. Hein. Si vous vous placez sur les deux derniers millénaires, non, c'est sûr que là, on n'était pas patriarcal, ça, c'est certain.
Pourquoi ? C'est une prise de pouvoir, je vais parler de l'Europe parce que c'est ce qu'on connaît, de l'homme physiquement peut-être sur la femme, c'est-à-dire du chasseur sur ce qu'on appelle le cueilleur.
Je ne sais pas si on peut le placer à cette époque-là. En tout cas, donc d'après ces travaux-là, les femmes étaient respectées parce qu'elles étaient capables de donner la vie, ce qui n'était pas capable de faire les hommes. Également parce qu'elles perdaient du sang et elles ne mouraient pas, et ça, les hommes n'étaient pas capables de comprendre non plus. Alors je rapporte ce qu'elles disent. Elles avaient un certain type de connaissances, peut-être plus intuitives, plus de liens. Donc elles étaient vénérées par les hommes. Voilà, donc c'était des femmes prêtresses. Il y a eu une époque aussi, alors je ne saurais pas trop vous dire non plus quand, vous aviez donc des prêtres d'un côté et des prêtresses de l'autre. Donc vous aviez un certain équilibre au sein de la société. Je pense que comme la sagesse est justement liée à la justice, qui est liée à cet équilibre-là, ce qui est important de retrouver cet équilibre aussi au sein de la société entre hommes et femmes, dans le respect de ce que chacun peut apporter.
Est-ce que ça peut être aussi la religion ? Parce que la religion, en tout cas chrétienne, est pour le coup masculine.
Oui, alors là aussi, vous avez des débats où vous avez alors la version dominante, c'est ce que vous dites. Après, vous avez une version qui a été qualifiée d'hérétique où les femmes avaient également du pouvoir et une reconnaissance par Jésus lui-même.
Ben oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Après, bon.
Il y a eu des votes.
Après,
qui ont
ça été dérive.
Fait, il y a eu,
mais
voilà,
dès
d'autres
que l'humain,
choses.
Dès que l'humain. Dès qu'une question est utilisée par l'humain, eh bien, forcément, une idéologie, une vision, une théologie, ce que vous voulez, dérive forcément, pour le coup.
Pas certains humains, c'est pas le cas de tout, je pense qu'il faut pas généraliser non plus, mais on en revient sur la question de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui font dériver les choses. Mais cette question, en fait... Ça demande aussi beaucoup d'humilité, hein, parce que quand je lis certains textes anciens, il y a plusieurs siècles, je me dis ces gens-là, ils essaient d'expliquer quelque chose, mais des fois il y a une ambiguïté dans une formulation. On pense être suffisamment clair, mais en fait on l'est pas. Ou alors sur le coup, les gens comprennent bien, et puis quand ils lisent X années plus tard, ils se disent ah mais en fait peut-être qu'il a voulu dire autre chose. Il y a une erreur d'interprétation. Des fois c'est simplement ça, ou il y a une faille dans son raisonnement. Donc on peut être tous à l'origine en fait d'une déviation à un moment donné. Donc ça demande une vigilance de chacun.
Oui, parce que c'est vrai que les textes, surtout les textes anciens, Si vous me dites, voilà, déjà, je remarque que les textes d'il y a 20-30 ans, sachant le différence du champ lexical entre aujourd'hui et il y a 20-30 ans, c'est pas sous François 1er, mais il y a 20-30 ans. Déjà.
Il y a ça, il y a des choses que tout le monde sait quand on l'écrit, donc c'est pas la peine qu'on le mette, mais X années plus tard, bah, c'est des choses qui sont plus dans les consciences des gens, donc on n'a pas les mêmes données pour comprendre le texte. Oui, donc il y a plein de raisons pour lesquelles des fois on peut se fourvoyer sur une interprétation.
Donc on est dans un débat en réalité sans fin.
Il y a toujours à travailler. Et ce travail-là, je pense qu'on peut le faire à l'échelle individuelle, mais c'est quand même mieux quand on en discute, justement, pour essayer de s'entraider les uns les autres pour pas dévier de la ligne.
Ben justement, comment vous faites, vous, dans votre travail, sachant toutes ces contraintes?
Pour pas dévier de la ligne. Alors, dans le monde de la recherche, on se relie les uns les autres. Voilà, c'est une pratique qui est courante pour s'assurer que déjà on a bien écrit, qu'on est clair, que voilà, et qu'on dit pas de bêtises. Donc ça c'est le minimum. Après, d'autres pratiques, c'est qui se fait pas forcément, enfin plus ou moins selon les lieux, c'est un temps de débat en fait. Je trouve qu'on a moins le temps de le faire parce qu'il y a plein de problèmes administratifs qu'on connaît dans tous les métiers. Il faut faire des rapports, etc. Donc on a moins le temps de discuter les uns les autres. Mais la discussion, c'est essentiel. Ça permet de progresser, déjà de voir si on est clair soi-même, d'approfondir des points qu'on n'aurait pas approfondis tout seul. Donc ça fait partie des éléments qui sont simples à faire, qui ne coûtent pas cher, mais qui sont très importants.
Et dans votre métier, dans votre voie de sociologue des sciences et techniques, le débat est possible ?
On n'est pas majoritaire parmi les sociologues. Les questions des sciences et des techniques ont un peu moins de place dans les enseignements également. Mais oui, après, il y a des débats. C'est juste qu'on est un peu moins nombreux géographiquement. Non, mais
je vous pose la question parce que ces débats, alors que les débats scientifiques ont toujours eu cours, ces débats scientifiques, par exemple, pendant la crise sanitaire, étaient interdits. Est-ce que chez vous, il y a des débats aussi interdits ou pas ?
Alors non, j'en connais pas. Des débats interdits, j'ai pas eu cette expérience-là.
C'est-à-dire que vous, parce que vous pensez quelque chose, on ne vous mettra pas de côté, par exemple.
Dans un domaine qui relève du champ des...
Dans votre domaine, voilà.
Alors, disons qu'il y a des questions qui sont plus à la mode que d'autres.
D'accord.
Si vous voulez. Il y a des sujets qui sont plus à la mode. Alors ça, vous les avez en matière de progression de carrière, mais ça vaut, je pense, dans tous les champs disciplinaires. Il y a des sujets, donc si vous travaillez dessus, vous allez être valorisé parce que vous allez avoir des propositions de recherche là-dessus. Ça va être recherché pour des embauches. Donc les thèmes varient au fil du temps. Hein, voilà. Aujourd'hui, ça va être l'IA, beaucoup. La santé, ça marche pas mal. Les transports, c'était intéressant aussi il y a quelques années.
Je vous dis ça parce que
les nanos, etc.
Je dis ça parce que vous avez quand même, en lisant vos écrits, et le fait aussi que vous participiez à certains magazines, dont celui de Géopolitique Profonde, j'imagine que, n'étant pas majoritaire dans votre domaine, et on sait très bien que ceux qui sont minoritaires, ont moins leur place au soleil, si je puis dire.
Oui, la lutte contre la désinformation, par exemple, c'est quelque chose qui est très à la mode aussi. Donc là, vous pouvez avoir du financement. Après, qu'est-ce qu'on appelle désinformation ? Là, il peut y avoir peut-être des points de divergence. Je vous l'accorde.
Alors, question d'auditeur, question difficile. Là, il me met même question difficile. Hein. Là, voilà, on passe au sommet. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Question difficile du bien et du pouvoir qui me rappelle une phrase magnifique du film Le crabe tambour de Pierre Schoendoerffer. Le choix le plus difficile de l'homme n'est pas entre le bien et le mal, mais entre un bien et un autre bien. Question difficile, elle est prévenue. Hein.
Un bien et un autre bien, je ne sais pas, entre découper quelqu'un en rondelles sans raison et ne pas le faire, je ne vois pas comment on peut qualifier ça, un bien et un autre bien.
Entre plusieurs morales, entre plusieurs visions de la vie, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des anglo-saxons, entre la vision de la vie théologique protestante, par exemple, et la vision de la vie théologique catholique. D'aucuns peuvent considérer que les deux sont des biens.
Oui, alors on tombe donc dans du relativisme aussi, et donc sur la question... Alors, il y a quand même des points communs, je trouve, dans les religions. Alors, quand on regarde vraiment le cœur du message, en règle générale, on tombe sur ce que je vous disais, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse soi-même. Le respect d'autrui, ne pas voler, ne pas tuer théoriquement. C'est des choses qui se retrouvent souvent, on va dire. Voilà. Après, vous avez effectivement des variantes. Donc là, ça peut être intéressant de s'interroger justement sur ces variantes-là. Sur quoi est-ce qu'on va justifier telle chose et remonter à la source, en fait. Quelles sont les valeurs sources là-dessus ? C'est quoi la cohérence de l'ensemble ? Donc, bah, après, il y a donc deux camps. Ceux qui pensent que bah, non, tout est relatif, il y a des variantes et il n'y a pas de lien. Ou ceux qui disent peut-être qu'on peut se rejoindre à un moment donné sur un terrain.
Bon, dernière question, il nous reste que 2 minutes, donc on va être très rapide. Le progrès n'est qu'un mouvement vers le pire. Bon, un mot.
Les gens du 18e pensaient que le progrès des sciences et des techniques donc, allait avec la morale, justement, et les choses ont changé à partir des guerres mondiales, en fait. C'est là qu'on s'est dit, finalement, le progrès des sciences et des techniques ne sert pas forcément la morale.
Bon, on s'arrêtera là.
Si vous voulez.
Parce que je préfère vous présenter encore Sophie Le... Parce qu'il ne nous reste que 2 minutes et que c'est la radio, hein, c'est la seconde près. Hein. Sophie Lefebvre, sociologue des sciences et techniques, votre dernier livre, dites-nous.
L'illusion technologique dans la pensée militaire, donc une réflexion sur les choix techniques. Pourquoi est-ce qu'on recherche la performance technique, justement, dans les armements ? Quelles sont les raisons derrière ? Et j'étudie si ces raisons sont vraiment solides ou pas et quelle puissance on déploie vraiment sur un théâtre d'opération. Donc c'est en lien avec les coûts des armements.
Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre ?
Sur mon site sophielefesse.fr.
Sophielefesse.fr, vous avez un site, vous écrivez nombre d'articles.
Je les mets pas forcément en ligne, tous les articles que j'écris.
Oui, mais vous en avez quelques-uns.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on peut y retrouver sur ce site, sophielefesse.fr, Lefebvre 2E.
Oui. Les dates des conférences que je fais quand j'en ai, et puis quelques articles.
La prochaine conférence, c'est quand ?
Voilà, j'en ai plus pour l'instant, je suis en vacances.
Bah, très bien, alors ça vous êtes ici. Merci à vous, chère Sophie. Voilà, Sophie Lefebvre, retrouvez-la sur son site sophielefebvre.fr, sociologue des sciences et techniques. Merci beaucoup pour cette très intéressante discussion.
Merci
à vous
d'avoir
été si nombreux, nombre de commentaires. Passez tous un excellent samedi. Je laisse ma place à notre ami ici présent pour une émission, je sais, passionnante aussi. Donc restez avec nous. Nous, on se retrouve semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses, dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie, samedi 28 mars 2026, de 10h30 à midi, et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.